Condorcet, vie de M. Turgot, fichier numéro 5. Il y avait longtemps qu'il prévoyait cet événement. Les édits, par lesquels il détruisait les corvées et les jurandes, n'avaient été enregistrés qu'en lit de justice, et après des remontrances presque aussi vives que celles qui avaient été faites par les mêmes corps contre les corvées et les jurandes. Chacune de ces opérations excitait un murmure. Chacun de ces projets trouvait un obstacle. Dans les premiers moments de son ministère, le public, effrayé de la crainte d'une banqueroute ou d'un nouvel impôt, n'avait pas songé au danger d'une véritable réforme dans l'État. Danger presque aussi grand pour la plupart des habitants riches de la capitale. Mais la première crainte dissipée, on aperçut le péril dans toute son étendue. Il était impossible de ne pas voir quels principes dirigeaient cette nouvelle administration. Elle annonçait partout le désir de rétablir les citoyens dans leurs droits naturels, violés par une foule de lois que l'ignorance et la faiblesse, plus que le despotisme, avaient multipliées. Partout, elle montrait le projet d'attaquer les abus dans leurs sources et de n'avoir pour politique que le soin de se conformer à la vérité et à la justice. Tous ces pouvoirs aristocratiques, qui, dans une monarchie, ne servent qu'à fatiguer le peuple et à embarrasser le gouvernement, prévoyaient que leur destruction ou leur réforme serait la suite d'un système d'administration juste et ferme. Les courtisans sentaient trop bien qu'ils n'avaient rien à espérer de M. Turgot. Ils prévoyaient que, s'il avait un jour le crédit de porter l'économie dans les dépenses de la cour, il attaquerait la racine du mal et ne se contenterait pas d'en élaguer les branches les plus faibles, que d'autres auraient bientôt remplacées. Il prévoyait la destruction de ses charges, de ses places, qui, inutiles à l'ordre public et cependant payées par le peuple, sont de véritables vexations. Jadis, séduits par l'appât de l'or, ils étaient venus déposer au pied du trône les restes de leur antique pouvoir. Mais le temps est arrivé où la nation ne doit plus ni les craindre ni les payer, où ils ne doivent prétendre ni à la gouverner, ni à l'appauvrir. Les financiers savaient que, sous un ministre éclairé, occupé seulement de simplifier et de réformer la perception de l'impôt, les sources de leur excessive opulence allaient bientôt tarir. Les hommes qui font le commerce d'argent sentaient combien il serait inutile sous un ministre ami de l'ordre, de la liberté du commerce, de la publicité de toutes les opérations. Tout ce peuple d'hommes de tout état, de tout rang, qui a pris la funeste habitude de subsister aux dépens de la nation sans la servir, qui vit d'une foule d'abus particuliers et les regarde comme autant de droits, tous ces hommes effrayés, alarmés, formaient une ligue puissante par leur nombre et par l'éclat de leur clameur. Comme on n'a point de fortune à espérer sous un ministre éclairé et vertueux, un tel ministre n'a point de parti. Au commencement du ministère de M. Turgot, un grand nombre d'hommes qui avaient des talents, des lumières, d'autres qui imaginaient en avoir ou qui espéraient le lui faire accroire, essayèrent de lui en former un. Peu à peu, ils se retirèrent et allèrent se joindre à ses ennemis. Les gens de lettres qu'on doit compter pour beaucoup, dans toutes les circonstances où l'opinion publique a une influence puissante, semblaient devoir se rallier à un ministre zélé pour les progrès de la raison, faisant à la cour, et même dans le ministère, une profession ouverte d'aimer les lettres et de les cultiver. Cependant, ils abandonnèrent bientôt un homme qui estimait leur production, mais qui les jugeait, appréciait le degré d'utilité de leurs divers travaux et faisait de cette utilité la mesure des récompenses qu'il méritait. Il ne restait à M. Turgot que le peuple et quelques amis. Et c'était une ressource bien faible à opposer à tous les partis, à tous les corps ligués contre lui. L'esprit public, ce zèle pour le bien général qu'il avait créé en France, existait au fond des provinces, s'y occupait de projets utiles, mais il n'avait pénétré ni à Paris, ni à la cour. Sa vertu, son courage, avaient mérité et obtenu l'estime du roi. Mais il lui manquait cette confiance intime et personnelle qui peut seule soutenir un ministre contre les partis nombreux et puissants. Il devait triompher et empêcher une révolution qui, en faisant le bonheur de la France, eût contribué par un grand exemple à celui de toutes les nations. Il était temps pour les ennemis du peuple. M. Turgot avait fait pour le bien public presque tout ce qu'un ministre peut faire seul et sans appeler la nation à son secours. Et il avait préparé de nouvelles opérations au moyen desquelles la nation, en même temps qu'elle jouirait des avantages immenses qu'elle pouvait recueillir de ses travaux, devait l'aider à en exécuter d'autres, non moins importants. Je vais exposer ici son plan et en développer les conséquences dans toute leur étendue, du moins autant que j'ai été capable de les embrasser. S'il se glissait quelques erreurs dans le compte que je vais rendre, c'est à moi seul qu'il faut les imputer. Le génie de M. Turgot méritait un autre interprète. Je ne craindrais point de rendre le bien plus difficile, en montrant combien il peut paraître redoutable à des classes riches ou puissantes. Ce n'est pas en trompant les hommes qu'il faut les servir. C'est de la force de la vérité et de la raison qu'ils doivent attendre leur bonheur, et non de la politique et de l'adresse d'un ministre. Cette illusion, d'ailleurs, est si passagère. Il faut, pour la produire, l'acheter par des sacrifices si dangereux pour les intérêts publics que si la vertu pouvait se prêter à ce genre d'hypocrisie, une politique sage devrait encore la proscrire. La première grande opération que se proposa M. Turgot était l'établissement de ce qu'il appelait des municipalités. Une assemblée de représentants ne peut être utile si la forme n'est pas telle que le vœu de l'assemblée soit en général conforme à la volonté et à l'opinion de ceux qu'elle représente. Si les membres qui la composent ne connaissent pas le véritable intérêt de la nation, si enfin ils peuvent être égarés par d'autres intérêts et surtout par des intérêts de corps. L'esprit de corps est plus dangereux que l'intérêt personnel, parce qu'il agit à la fois sur plus de personnes, qu'il n'est jamais retenu par un sentiment de pudeur ou par la crainte du blâme, qu'on cesse de redouter dès qu'il est partagé. Parce qu'enfin, l'intérêt personnel d'un grand nombre d'hommes isolés ne peut être contraire à l'intérêt général que dans des circonstances rares et passagères. C'est pour remplir ces trois conditions principales que M. Turgot avait combiné le plan des assemblées dont il s'occupait à proposer l'établissement. Il eut commencé par réunir différents villages en une seule communauté. L'assemblée générale des membres de cette communauté eût été composée des seuls propriétaires. Ceux dont la propriété eût égalé un revenu déterminé auraient eu une voix. Les autres propriétaires, réunis en petites assemblées, dont chacune aurait possédé collectivement environ le revenu exigé pour une voix, auraient élu un représentant à l'assemblée générale. Par ce moyen, la représentation aurait été beaucoup plus égale qu'elle ne l'a jamais été dans aucun pays. Aucun citoyen pour ainsi dire, n'en eût été privé que volontairement. Et il est à remarquer qu'en se conformant ainsi au principe que les seuls propriétaires ont droit à ces assemblées, personne de ceux qu'il peut être utile d'y appeler n'en était vraiment exclu. On ne multipliait pas les voix à l'excès, comme dans les pays où l'on aurait fixé à une très petite valeur le revenu qui donne le droit d'avoir une voix. Et on ne privait pas du droit de voter un grand nombre de citoyens, comme dans les pays où ce revenu serait fixé trop haut. Ces assemblées générales auraient été bornées à une seule fonction, celle d'élire le représentant de la communauté à l'assemblée du canton. Et un certain nombre d'officiers chargés de gérer les affaires communes et de veiller sur les petites administrations que l'on aurait été obligé de conserver dans chaque village, mais en leur donnant une forme nouvelle. Les mêmes assemblées auraient été formées dans les villes par les propriétaires des maisons. Et sur le même plan qui aurait été adopté par les communautés des campagnes. Il résultait de cette combinaison un grand avantage, réunis en corps assez nombreux, et dans lesquels les seigneurs des terres, les ecclésiastiques, n'auraient eu de voix, n'auraient été élus représentants que comme propriétaires. Les citoyens des campagnes auraient eu, pour soutenir leurs intérêts, des défenseurs plus éclairés, plus accrédités que de simples syndics de paroisse. Ils auraient pu lutter contre les corps municipaux des villes dont le crédit a su souvent arracher des règlements funestes aux campagnes. Ils eussent pu se défendre avec plus d'avantages contre les usurpations des ecclésiastiques et contre celles des nobles, contre l'autorité des administrateurs subalternes, contre l'avidité des gens de justice, etc., etc. Et on pouvait espérer de trouver même, dès le premier établissement, des seigneurs ou des ecclésiastiques qui préféreraient l'honneur d'être choisis par la voie publique comme les chefs et les protecteurs de leur canton, à la vanité de faire valoir des droits odieux au peuple, devenu le juge de leur conduite et le dispensateur de places qu'ils auraient ambitionnées. Les assemblées municipales d'un canton, telles à peu près ce qu'on appelle une élection, auraient nommé chacun des députés qui, à des temps marqués, y auraient tenu une assemblée. Chaque élection eût envoyé des représentants à une assemblée provinciale. Et enfin, un député de chaque province eût formé dans la capitale une assemblée générale. Aucun député ne siégeait dans ces assemblées ni comme revêtu d'une charge, ni comme appartenant à une certaine classe. Mais aucune classe, aucune profession, de celles qui n'exigent pas résidence, n'eût été exclue du droit de représenter une communauté, une province. Le grand seigneur, le pontife, le magistrat eussent siégé comme l'homme du peuple, suivant que le choix de la communauté, du canton, de la province en eût décidé. La constitution de toutes ces assemblées eût été la même. M. Turgot n'imaginait pas que la différence des caractères d'un Normand et d'un Gascon dut exiger une forme différente d'administration. Il pensait que ces raffinements politiques, employés avec tant d'esprit pour justifier d'anciens abus, n'étaient propres qu'à en produire de nouveaux. L'égalité entre les membres lui paraissait encore plus nécessaire. Un député du clergé, un membre de la noblesse ou un ecclésiastique, un gentilhomme, députés des propriétaires de leur canton, ne sont pas les mêmes hommes. Les uns se croient les représentants de leur ordre et obligés par honneur d'en soutenir les prérogatives. Les autres regardent ces mêmes prérogatives comme des intérêts personnels qu'il ne leur est permis de défendre que lorsqu'ils les croient liés à l'intérêt commun. si les députés sont partagés en ordres différents, on donne une nouvelle sanction à l'inégalité qui subsiste entre eux. Et les députés des ordres populaires, déjà inférieurs en crédit, le sont encore par la place qui leur est assignée. On devrait chercher à unir les citoyens entre eux, et on ne fait que les diviser, en marquant avec plus de force la limite qui les sépare. Si, par un esprit de popularité, on multiplie les membres des représentants à proportion du nombre de ceux qu'ils représentent, on tombe dans l'inconvénient opposé, l'oppression des ordres supérieurs. Si les différents ordres ont des intérêts communs, pourquoi ne pas en abandonner le soin à une assemblée où ces ordres sont confondus? Si leurs intérêts sont opposés, est-ce d'une assemblée où ces ordres sont séparés que vous devez attendre des décisions conformes à la raison, des opérations conduites avec impartialité? N'est-il pas évident que, s'il y a quelque égalité de nombre entre ces ordres, ce seront véritablement les transfuges des ordres inférieurs qui formeront les décisions? Ces intérêts, d'ailleurs, ne sont pas si opposés qu'ils le paraissent aux esprits égarés par les préjugés, agités par de petites passions. Et la division entre les ordres ne servirait qu'à multiplier ces erreurs contraires à l'intérêt général. En France, la distinction entre les bourgeois des villes et les habitants des campagnes ne peut être qu'odieuse. Le clergé n'est pas un corps politique, mais une profession. Il ne doit pas plus former un ordre qu'aucune autre classe du citoyen payée par l'État pour y exercer une fonction publique. La vraie noblesse, les descendants de l'ancienne chevalerie, n'avaient pas à se plaindre d'une forme où ils ne paraîtraient que comme les chefs, les représentants du peuple. C'était les rappeler à leur première origine. D'ailleurs, la noblesse, riche de possessions en terre, ne pourrait manquer d'avoir, dans une constitution semblable, une assez grande prépondérance, en même temps que cette même constitution ouvrirait à la noblesse pauvre une carrière honorable. Des assemblées sans distinction d'ordre, ne pouvant avoir un autre intérêt que celui de la nation, n'y eussent pas introduit un régime anarchique, formé de petites aristocraties séparées, qui auraient été gouvernées par des courtisans dont il eût fallu acheter le suffrage ou réprimer les intrigues, et qui, si elles avaient quelquefois défendu le peuple contre les ministres, auraient plus souvent obligé les ministres de le défendre contre elles-mêmes. L'opération eut embrassé à la fois tous les pays d'élection. Cette marche était la seule qui put en assurer le succès, qui donna à ces assemblées, dès les premiers temps de leur établissement, une véritable utilité, qui eut permis, enfin, de faire le bien d'une manière grande et durable. L'idée de faire un essai sur une seule province paraissait à M. Turgot une véritable puérilité qui n'eût servi à rendre le premier pas plus aisé qu'en rendant le second bien plus difficile. C'était uniquement à des fonctions d'administration que M. Turgot croyait devoir appeler ses assemblées, et il ne pensait pas que ces fonctions dussent s'étendre au-delà de l'exécution des règlements généraux, des lois émanées de la puissance souveraine. Il croyait que la destruction d'abus compliqués et multipliés, la réforme d'un système d'administration, la refonte d'une législation, ne pouvaient être bien faites que d'après un plan régulier, un système combiné et lié, que tout devait y être l'ouvrage d'un seul homme. Il savait que dans les États même où la Constitution est la plus populaire, où par devoir comme par ambition tous les citoyens s'occupent des affaires publiques, c'est presque toujours au gré des préjugés qu'elles sont décidées. C'est là surtout que les abus sont éternels et les changements utiles impossibles. mais dans cette monarchie, où un établissement de cette espèce serait de nouveau, qu'attendre d'une assemblée d'hommes, presque tous étrangers aux affaires publiques, indociles à la voix de la vérité, prompts à se laisser séduire, à celle du premier charlatan qui tenterait de les séduire. La générosité qui porterait à leur laisser le soin de prononcer sur leurs intérêts ne serait qu'une cruauté d'hypocrite. Ce serait abandonner en pure perte le plus grand avantage des monarchies, celui de pouvoir détruire l'édifice du préjugé avant qu'il se soit écroulé de lui-même, et de faire des réformes utiles, même lorsque la foule des hommes riches et puissants protège les abus. Celui, enfin, de suivre un système régulier, sans être obligé d'en sacrifier une partie à la nécessité de gagner les suffrages. Monsieur Turgot s'était occupé de ce plan longtemps avant d'entrer dans le ministère. Il en avait médité l'ensemble, en avait examiné toutes les parties, avait réglé la marche qu'il fallait suivre et arrêté les moyens de l'exécuter. Il eût voulu porter ces établissements dès leur première origine au degré de perfection auquel l'état des lumières actuelles permettait de s'élever. Il n'eût voulu ni faire aucun sacrifice à l'opinion du moment, ni donner à ses assemblées une forme vicieuse, soit pour obtenir une gloire plus brillante, soit même pour en faciliter l'établissement. Il savait que toute institution de ce genre, si une fois elle a été faite d'après des principes erronés, ne peut plus être réformée que par de grands efforts, et peut-être aux dépens de la tranquillité publique. Et il ne croyait pas qu'il fût permis à un ministre qui doit préférer l'utilité générale à sa propre gloire de faire un bien passager pour rendre impossible tout bien plus grand et plus durable. C'est dans les mêmes vues qu'il eût voulu régler à la fois la forme de ses assemblées, la manière d'en élire les membres, l'ordre dans lequel ils siégeraient, la forme de l'élection de leurs officiers, les droits attribués à chaque assemblée, les limites de ces droits, les fonctions de ces officiers, en un mot, tout ce que sa prévoyance et ses principes eussent pu embrasser. Il voulait que cette institution fût l'ouvrage de la raison, et non, comme toutes celles qui ont existé jusqu'ici, celui du hasard et des circonstances. Il eut commencé par l'établissement des municipalités particulières, qui eut bientôt été suivi de celui des assemblées d'élection. Là, il se fut arrêté, d'abord parce que cet établissement eût suffi à l'exécution de la plupart de ses vues, ensuite pour laisser le temps à l'esprit public de se former, aux citoyens de s'instruire, et à ceux que leur lumière, leur talent, leurs intentions rendaient dignes de fonctions plus étendues, de s'y préparer et de se faire connaître. Il est facile d'établir des assemblées, mais leur utilité dépend uniquement de l'instruction de leurs membres, de l'esprit qui les anime. Et il s'agissait en France de donner une éducation nouvelle à tout un peuple, de lui créer de nouvelles idées en même temps qu'on l'appelait à des fonctions nouvelles. Les citoyens des premières classes n'avaient à cet égard aucun avantage sur le peuple, et l'on pouvait craindre seulement de leur trouver plus de préjugés. Il fallait donc affermir les fondements de l'édifice avant de penser à en poser le comble. Avant de songer à donner des chefs aux citoyens, il fallait qu'il y eût des citoyens en état de les choisir. Un autre motif déterminait M. Turgot à suivre cette marche. Sa politique, toute fondée sur la justice, lui défendait de regarder comme légitime tout abus de confiance, quelque utilité qui pût en résulter, ou de croire qu'il fût permis de tromper un roi, même en faveur de toute une nation. Animé par ce principe, il croyait devoir s'arrêter après avoir formé les assemblées par élection, trop multipliées pour se réunir, trop faibles pour agir seules, et avertir le roi qu'en donnant au reste de ce plan toute son étendue, il ferait à sa nation un bien éternel, mais qu'il ne pouvait le faire sans sacrifier une partie de l'autorité royale. Il lui eut montré toute la gloire que pouvait mériter un sacrifice jusqu'ici sans exemple dans l'histoire, et une action de patriotisme supérieure à ses vertus qui ont acquis au Trajan, au Marc Aurèle, la juste admiration de tous les siècles, mais qui, bornant leur influence au temps d'un seul règne, ont été perdus pour la postérité. Il lui eut dit en même temps que, dans une constitution ainsi formée, le vœu général de la nation serait le seul obstacle à l'autorité, qui, toujours tranquille et assurée, ne verrait plus ni aucun corps intermédiaire, ni les intérêts d'aucun ordre d'homme troubler la paix et s'élever entre le prince et son peuple, et n'en serait que plus absolu et plus libre pour faire le bien. Que ce vœu général sur lequel, avec de tels moyens, on ne pourrait le tromper, et qui s'égarerait rarement, serait un guide plus sûr que cette opinion publique, espèce d'obstacle commun à tous les gouvernements absolus, dont la résistance est moins constante, mais aussi moins tranquille, souvent aussi puissante, quelquefois nuisible et toujours dangereuse. Qu'enfin, si l'ordre naturel des événements devait rendre un jour nécessaire un tel sacrifice, il ne pourrait être sans danger pour la nation comme pour le prince, à moins qu'il ne fût absolument volontaire et fait par le souverain lui-même avant le moment où l'on commencerait à en sentir la nécessité. Qu'on ne nous blâme point d'être entrés dans ces détails que les esprits serviles ou les âmes passionnées pour la liberté trouveront peut-être indiscrets et déplacés. Mais pourquoi n'aurions-nous point montré une fois un homme vertueux placé entre le désir de faire le bien et le devoir que lui impose la confiance du prince, ne voulant trahir ni l'une ni l'autre de ses obligations, ou plutôt n'en connaissant qu'une, celle d'être sincère avec les autres hommes comme avec sa conscience. Si le plan eût été adopté dans toutes ses parties, alors l'établissement des assemblées provinciales se serait formé aussitôt que les premiers ordres d'assemblée auraient acquis assez de consistance, et on aurait pu attendre d'elles des représentants choisis avec soin et assez instruits pour agir par eux-mêmes, et ne pas borner leurs fonctions au triste plaisir d'appuyer de leur suffrage l'opinion de quelque homme adroit et puissant. Mais pour former une assemblée nationale, il fallait plus de temps. Il fallait que le succès des assemblées particulières, celui des opérations qu'elles auraient exécutées, eût subjugué l'opinion publique, eût détruit les préjugés et eût permis de donner la même constitution aux provinces, aujourd'hui administrées par des assemblées, dont la forme, quoique vicieuse, est encore admirée par le vulgaire, protégée par ceux dont elle assure le crédit, et souvent chère au peuple même qui est la victime des vices de ses constitutions. Le premier objet auquel M. Turgot croyait pouvoir employer ses assemblées était la réforme de l'impôt. Il est démontré que sous quelque forme qu'un impôt soit établi, il se lève en entier sur la partie de la reproduction annuelle de la terre qui reste après qu'on en a retranché tout ce qui a été dépensé pour l'obtenir. Il est également prouvé que la seule répartition juste est celle qui est proportionnelle à ce produit net de la terre. Il l'est encore que la seule manière possible d'établir cette proportion, et même toute proportion régulière, est de lever directement l'impôt sur ce produit. Pour se convaincre de la première de ces vérités, il suffirait d'observer que le produit net du territoire étant la seule richesse qui se reproduise annuellement, c'est sur elle seule que peut être assis un impôt annuel. D'ailleurs, si l'on examine les différentes formes d'impôts, ou établies ou proposées, et qu'on cherche sur quels produits ils sont réellement levés, on trouvera, en dernière analyse, qu'ils portent ou sur le produit net de la terre ou sur l'intérêt net des capitaux, c'est-à-dire sur l'intérêt diminué de ce qui est ou la compensation du risque auquel le fonds est exposé ou le salaire de la peine que donne la manière de le faire valoir. Supposons donc un impôt distribué sur ces deux objets et qu'on le porte en totalité sur la terre. N'est-il pas évident que chaque propriétaire d'argent pourra sans perte prêter à un intérêt plus bas? Supposons ensuite tout l'impôt reporté sur l'intérêt net de l'argent. Ces mêmes propriétaires ne pourraient plus, sans essuyer une perte, le prêter au même intérêt. Il doit donc se faire dans le taux de l'intérêt un changement qui tende à rétablir l'équilibre. L'intérêt net de l'argent peut-il même avoir une autre mesure que celui des capitaux employés à l'achat d'une terre à fermer? Tout ce qui excède cette proportion n'est-il pas la compensation du risque ou le prix de la peine? La seconde proposition paraît évidente par elle-même. La justice semble exiger que chacun contribue au service public à proportion de ce dont la force publique lui assure la jouissance. Quelque petite que soit la propriété, elle est un avantage et un moyen de subsistance indépendant du travail. Enfin, l'impossibilité absolue d'établir cette proportion sous une autre forme que l'impôt direct ne peut être contestée. Et s'il arrivait qu'en substituant cet impôt direct à ceux qui sont établis, une classe de la société, quelle qu'elle fût, y trouva de l'avantage aux dépens d'une autre, il serait clair que l'ancien impôt n'était pas distribué avec équité. Et loin de s'en plaindre, il faudrait se féliciter d'avoir réparé une injustice. Mais toutes les classes y gagneraient, car cette méthode, la seule juste, la seule qui ne nuise ni à la reproduction ni à l'industrie, est encore celle qui entraîne moins de frais de perception. La seule où les citoyens ne soient exposés à aucune gêne, à aucune vexation, où le peuple ne soit soumis à aucune humiliation, où l'on ne voit pas s'élever entre les agents de l'administration et le peuple une guerre sourde qui jette la défiance entre le souverain et les sujets, qui arme une partie de la nation contre l'autre, emploie en pure perte le temps d'une grande quantité d'hommes. Corrompt également les satellites du fisc et ceux qui font un métier d'embraver les règlements, et oblige à faire contre des lois dont l'humanité et la justice sont également révoltées. L'impôt direct, ainsi diminué des frais de perception, est rendu facilement proportionnel aux revenus de ceux qui y sont assujettis, a de plus le double avantage de n'être jamais avancé que par celui qui peut le payer, et d'être mis sous une forme si simple que la masse totale de l'impôt, ses diminutions, ses augmentations successives, enfin la partie à laquelle chacun est imposé, sont nécessairement connues de chaque citoyen qui ne peut plus être trompé, ni sur les intérêts publics, ni sur les siens propres. L'espèce d'anarchie qui a régné en Europe depuis les conquêtes des Romains jusqu'au milieu du siècle dernier, avait empêché d'établir cette forme de subvention qui maintient l'ordre dans un état, mais qui demande qu'il y soit déjà établi. Il est douteux que les anciens en aient eu l'idée, et elle est même si récente chez les modernes que lorsqu'on établit le dixième dans la guerre de la succession, cet impôt, le seul qui ne renferma point une atteinte au droit de propriété, fut précisément le seul pour lequel Louis XIV eut quelques scrupules de blesser ce droit. Aussi, presque toutes les nations de l'Europe gémissent sous le poids d'impôts beaucoup plus onéreux par leur forme que par leur valeur réelle. Si quelque obstacle s'oppose à cette réforme, ce n'est pas l'excès de la valeur actuellement existante des contributions déjà payées réellement sur ce même produit net et d'une manière plus onéreuse, puisqu'elles sont inégalement distribuées et augmentées de toute la dépense que coûte leur perception. Mais on trouve un premier obstacle dans la nécessité qu'impose cette réforme d'acquérir, par la confection d'un cadastre, une connaissance exacte de la valeur de toutes les propriétés. On sent aisément qu'un impôt unique et territorial, réparti au hasard, pourrait être plus onéreux que des impôts indirects, qui, du moins, produisent une espèce de compensation, et que tout l'avantage qu'il aurait alors serait l'impossibilité de le maintenir. Le second obstacle vient de la difficulté même de la réforme. En effet, chaque impôt indirect n'est pas payé par la masse entière des propriétés. Quelques-uns affectent seulement certaines classes d'hommes ou certaines natures de biens. D'autres ne pèsent que sur un seul canton. Et il en résulte la nécessité d'établir d'abord par le calcul ce que chaque propriété payer réellement de l'impôt qu'on veut supprimer, y ajouter cette valeur et distribuer ensuite l'impôt territorial qu'on veut substituer à l'ancien, proportionnellement à cette nouvelle valeur du produit net. Cette opération même serait injuste si on ne détruit qu'un impôt indirect et qu'on en laisse subsister beaucoup d'autres. Il serait possible, en effet, que parmi ceux qui resteraient, il y en eût qui n'affectassent en aucune manière les propriétés sur lesquelles portait l'impôt supprimé. Et dans ce cas, la règle précédente introduirait une injustice en faveur de ces propriétés qu'on aurait soulagées aux dépens des autres. Il n'y a que deux moyens de remédier à ce mal. Le premier, de faire le calcul dont nous venons de donner l'idée pour tous les impôts indirects, comme si on voulait les supprimer à la fois. De voir par là quel est le produit net réel de chaque terre, ce que chacune paye d'imposition en général, ce qu'elle en paierait après la destruction de l'impôt qu'on veut réformer, et de distribuer ensuite l'impôt qu'on lui substitue, de manière à rétablir le plus d'égalité qu'il est possible. La seconde méthode consiste à laisser subsister d'abord toute la disproportion déjà existante, ce qui n'est pas du moins une injustice nouvelle. On chargerait précisément chaque propriété d'une quantité d'impôt proportionnelle à ce qu'elle payait déjà, sans lui faire éprouver d'autres avantages que l'exemption des frais de perception. Le temps, en éclairant ensuite sur les erreurs de cette opération, rétablirait peu à peu une justice plus lente à la vérité, mais qui aurait presque toujours commencé par être une moindre injustice. La première méthode exige beaucoup plus de lumière de la part du ministre qui voudrait la suivre. Et peut-être n'a-t-il existé qu'un seul homme capable de la bien employer. Mais elle est plus juste en elle-même, et les erreurs qu'on commettrait seraient beaucoup moins considérables que celles qui sont inévitables dans la seconde, dont l'application d'ailleurs devient très difficile si une certaine partie d'un impôt affecte une masse de propriétés qui ne soit distinguée ni par leur position géographique, ni par la nature du terrain, ni par quelque autre qualité inhérente à la propriété même. Tels sont les droits d'entrée et les impôts particuliers mis sur une classe du citoyen. Le produit net auquel l'impôt doit être proportionné est formé, comme on vient de le dire, en ajoutant au produit actuel tout ce que ces impôts indirects en ont retranché. Et il en résulte une nouvelle difficulté. Une partie des impôts indirects a été comptée dans les frais de culture. Si les biens ont été affermés, la part du propriétaire a été diminuée. Ainsi, cette partie du produit net, abandonnée au fermier, doit faire partie du nouvel impôt. Le fermier devra donc payer une part de cet impôt égale à la valeur du produit net dont la suppression de l'impôt indirect lui laisse la jouissance. Et cette part doit être levée sur lui en diminution de celle que paierait le propriétaire. La baisse des salaires, des profits de commerce, de l'intérêt de l'argent est une suite de l'établissement de l'impôt territorial. Mais les appointements, les pensions, les droits déterminés par la loi pour certaines fonctions doivent être regardés comme des salaires fixes qui, par conséquent, doivent éprouver la même baisse ou ce qui revient au même, il faut les diminuer de toute la partie de l'impôt dont la suppression d'un impôt indirect les a soulagés. Par une suite du même principe, les rentes non remboursables dues par l'État doivent être assujetties à la même diminution. Cet exposé, quoique incomplet, suffit pour faire voir que la transformation de tous les impôts indirects en un seul impôt direct n'est pas impossible à faire par une seule opération, mais qu'en même temps, la prudence exige qu'elle soit faite par degrés. En effet, il est aisé de sentir que la baisse des salaires, des produits du commerce, de l'intérêt de l'argent, nécessaire pour dédommager les propriétaires de la nouvelle partie de l'impôt dont ils seraient chargés, ne peut se faire assez promptement pour qu'ils n'éprouvassent pas une vexation très sensible, quoique passagère, si le changement se faisait à la fois. Quelque sagacité qu'on suppose à un ministre, quelque précision qu'on puisse apporter dans les détails d'une telle opération, il est impossible qu'il ne s'y glisse des erreurs. Si on fait l'opération entière d'une seule fois, ces erreurs peuvent s'accumuler et produire, pour un grand nombre de citoyens, une surcharge vraiment onéreuse. Cet inconvénient n'est plus à craindre en la divisant par parties. Et d'ailleurs, si dans ce cas on avait à redouter des erreurs considérables, on y remédierait par le sacrifice momentané d'une partie de la valeur de l'impôt. Sacrifice qui deviendrait impossible si on opérait à la fois sur la totalité des impositions. Si cette conversion successive de tous les impôts en un impôt territorial a des difficultés, elle est aussi la seule réforme qui puisse produire un bien durable. À l'exception de quelques vexations, de quelques abus de détails qu'on peut détruire, l'idée de changer la forme des impôts indirects, d'y porter l'uniformité ou des formes plus simples, ne peut se présenter qu'à des hommes peu instruits. Ils ne sentent pas que cette simplicité qui les a séduits sera bientôt altérée par une foule de petits obstacles imprévus qui naîtront de la nature de ces impositions ou que l'esprit fiscal aura l'art de produire. Ils ne sentent pas que la culture, l'industrie, le commerce de chaque province se sont combinés d'après la nature des contributions qui s'y payent, en sorte que l'augmentation d'un impôt indirect nécessaire pour établir l'uniformité entre deux provinces voisines, peut ruiner celle qui le supporterait sans qu'une diminution égale d'un autre tribut pût y rétablir l'équilibre. Il faut, sans doute, qu'un administrateur forme seul le plan de cette réforme et qu'il dirige tous les détails d'après le même esprit, suivant les mêmes vues, par une même méthode. Mais la confection d'un cadastre, la répartition de l'impôt entre les provinces, entre les élections, entre les communautés et enfin entre les particuliers, exige des travaux de détail qui ne peuvent être bien exécutés que sous les yeux des assemblées municipales, où chaque particulier, chaque communauté, chaque élection a intérêt qu'on soit juste avec les autres, et qui peuvent donner à toutes leurs opérations une publicité sans laquelle il n'y a point de bien à espérer. D'ailleurs, cette révolution dans la forme de l'impôt en produirait une plus ou moins lente dans la culture, dans l'industrie, dans le commerce. Et par une suite de cette révolution, dont les effets ne peuvent être prévus avec précision, la proportion du produit net des différentes terres serait altérée au point d'exiger des changements successifs dans la répartition. Ainsi, en supposant même que par une sorte de prodige, un ministre et ses agents fussent parvenus à exécuter une première opération, il faudrait, pour compléter l'ouvrage, que le même miracle pût se reproduire une seconde fois. C'était donc à la confection du cadastre et à la répartition des impositions nécessaires pour remplacer celles qui auraient été successivement détruites que M. Turgot eut d'abord employé les nouvelles assemblées. Les deux premiers ordres eussent suffi. Le gouvernement aurait fait aisément la répartition, soit entre les élections, soit entre les provinces, du moment où celle des paroisses et des élections aurait été exécutée avec un peu d'exactitude et d'après le plan uniforme qui leur aurait été donné par le législateur. Car tout devait partir de la même autorité, tout devait être dirigé par le même esprit et réglé par les mêmes principes. Dans les pays d'État, les assemblées, telles qu'elles sont constituées, eussent exécuté les mêmes opérations avec une exactitude suffisante. La comptabilité eût été portée en même temps au plus grand degré de simplicité. Une correspondance directe entre le trésor royal et les trésoriers particuliers de chaque élection, chargés à la fois de recevoir les impôts et de distribuer les fonds destinés aux dépenses locales, eût tenu lieu des opérations compliquées qu'exécutent avec si peu d'ordre et tant de dépenses l'armée des agents du fisc. Ces mêmes assemblées auraient eu le soin des travaux publics. Chacune dans son territoire en aurait fait l'adjudication et réparti le paiement. Les travaux, dont l'utilité eût regardé toute une province ou l'État entier, aurait été réglée par le gouvernement et répartie par lui, soit sur la province, soit sur le royaume, mais toujours adjugée, dirigée dans chaque canton par l'assemblée d'élections, qui aurait eu toujours assez d'intérêt de prévenir les abus et assez de connaissances et de pouvoir pour les empêcher de s'introduire. Les établissements pour l'éducation, les maisons de charité, les secours à donner aux pauvres auraient été administrés par ces assemblées, d'après un plan général donné par le gouvernement, plan déjà préparé par M. Turgot et qui, comme tous les autres, eût porté l'empreinte de son génie. Ainsi, les établissements de charité n'auraient plus avili ou corrompu l'espèce humaine et englouti les générations futures. On eût soutenu les familles et secouru le malheur sans encourager l'oisiveté et le libertinage. Et pour la première fois, l'éducation publique eût formé des hommes instruits de ce qu'il importe à chacun de savoir dans la place qu'il doit occuper, et conduit à la vertu par une raison qui qui, grâce à l'habitude prise dès l'enfance de n'adopter que des vérités, aurait été préservé du joug des préjugés et des pièges de l'erreur. Chaque élection eût été chargée de fournir au roi les recrues volontaires destinées à remplacer les milices. Monsieur Turgot comptait employer encore les mêmes corps pour détruire graduellement les droits féodaux. Ces droits ne pouvaient être, selon lui, de véritables propriétés. Les uns, comme les dîmes féodales, les champarts, les cens, pouvaient représenter la propriété ou bien être une partie du prix pour lequel elle a été aliénée. D'autres, en plus grand nombre, étaient de véritables impôts, dont le souverain avait, par son consentement, légitimé l'usurpation. Quelques autres, comme la chasse, la pêche, les banalités, le droit de vent, étaient de véritables privilèges exclusifs. Enfin, il y en avait qui, comme le droit de justice et quelques-uns de ceux auxquels les mains mortables sont assujettis, étaient ou une usurpation du droit de souveraineté ou une violation du droit naturel. M. Turgot croyait que les droits qui représentent la propriété devaient être sacrés, comme elle, qu'on devait, sans se livrer à des recherches sur l'origine de ces droits, regarder comme vraiment représentatifs de la propriété tous ceux qui en avaient l'apparence. Mais il jugeait en même temps que toute convention, tout acte qui donne à la propriété une forme éternelle, renferme la condition implicite que le souverain pourra rétablir le droit commun aussitôt qu'il le jugera utile, parce qu'aucun propriétaire ne peut étendre à l'éternité le droit qu'il a sur son bien et que ce droit s'éteignant avec lui par la nature, toutes les conditions qui ne s'exécutent qu'au-delà de ce terme reçoivent leur sanction, non du droit naturel, mais du droit civil. Les droits représentatifs de propriété doivent donc être remboursables au taux moyen des propriétés de la même nature. Ceux qui représentent des impôts ou qui sont des privilèges exclusifs, espèces d'impôts presque toujours très onéreux, ne peuvent donner de droit qu'à un dédommagement réglé sur le taux moyen de l'intérêt. Ils ne sont pas une propriété, mais un engagement pris par l'État, engagement qui, par sa nature, ne peut être perpétuel. On retrouve ici l'application des principes exposés par M. Turgot dans l'article Fondation et son opération sur les messageries, sur les droits de halage ou de marché, nous en a fourni un autre exemple. Mais il y a une différence entre ces droits et ceux qui représentent la propriété. Le souverain, pour cela, a le droit de forcer au remboursement, comme une conséquence de celui de changer la forme de l'impôt. Mais il n'a pas le même pouvoir pour les droits qui représentent la propriété. Et le remboursement n'en peut être que volontaire de la part de celui qui y est assujetti. La troisième espèce de droit doit être détruite sans qu'il en soit dû aucun dédommagement, parce que les usurpations de l'autorité souveraine ne peuvent être légitimés par la possession et qu'on fait grâce à ceux qui jouissent d'un droit contraire au droit naturel en ne les condamnant pas à une restitution et en les excusant sur une ignorance que le préjugé général peut rendre réellement excusable. C'était au législateur à poser les principes et les règles d'après lesquelles ces opérations pouvait être dirigé, à classer les différents droits. Mais l'exécution de ces remboursements, les arrangements particuliers, ne pouvaient être faits avec justice et sans exception de personne que par des assemblées municipales. Ces assemblées auraient été encore employées à la liquidation des dettes de l'État. D'abord, chacune d'elles aurait été chargée des emprunts et des remboursements nécessaires pour l'extinction de dettes particulières aux villes, aux provinces, pour celles d'un grand nombre de charges ou inutiles ou qui devraient n'être pas vénales. Ces sommes n'entrent pas dans le calcul ordinaire des dettes de l'État parce que l'impôt qui les paie n'entre pas dans le trésor royal. Mais, aux yeux d'un administrateur éclairé, elles en font partie, comme ce qu'elles coûtent, sous quelque forme qu'il soit payé, est une portion du véritable impôt. Mais, indépendamment du remboursement successif de la dette générale que M. Turgot espérait devoir être le fruit de l'économie, de la diminution des intérêts, de la baisse du taux de l'argent qui aurait été accéléré par la réforme de l'impôt, il envisageait de plus grandes ressources. Les domaines territoriaux du roi auraient été régis par les nouvelles assemblées. L'augmentation du produit aurait été employée par elles à l'extinction des dettes, et elles auraient été chargées ensuite de les aliéner successivement et par petites parties dans les ventes publiques lorsque des ouvrages assez faciles pour être lus, assez savants pour convaincre, auraient fait sentir le peu de fondement du principe que le domaine de la couronne est inaliénable, l'absurdité d'appliquer ce principe au domaine d'un roi qui jouit du droit d'établir des impôts et l'utilité que le peuple retirerait de cette aliénation. Lorsque ces vérités, si simples, mais encore si peu répandues, seraient devenues l'opinion commune et générale, et lorsqu'en même temps la confiance que les nouvelles assemblées commenceraient à inspirer aurait permis de se flatter de porter à son véritable prix la vente de ses biens et celle du droit de rentrer dans les domaines engagés.